Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Dans son édition 2022, le rapport Ramsès, publication de l'IFRI, consacre une large place à l'espace post-soviétique 30 ans après la chute de l'URSS. Le 25 décembre 1991, l'Union soviétique disparaissait brusquement de la scène internationale. Le drapeau rouge qui avait flotté plus de 70 ans au-dessus du Kremlin était remplacé par le tricolore de la Russie post-soviétique. Ainsi tombait le voile de la façade impressionnante de la superpuissance mondiale pour laisser place à une réalité d'impuissance. Boris Eltsine fut le syndic de la faillite du communisme. Avant lui, Mikhaïl Gorbatchev avait voulu réformer le système, trop tard et sans aide. Ce fut l'implosion. Les États-Unis devenaient vainqueurs de la guerre froide, une guerre froide dont la fin fut interprétée par Washington et les Occidentaux comme une victoire militaire et non comme une chance de réunification de l'histoire et de réintégration de la Russie dans le jeu international. Le résultat est ce à quoi l'on assiste aujourd'hui. Face à ce que Moscou interprète comme de l'expansionnisme occidental, sa position a évolué, passant de la défensive à une posture plus arrogante. Une Russie aujourd'hui sûre d'elle-même, marquant son retour sur la scène internationale et prête à contester ouvertement l'ordre international tel qu'établi par l'Occident après la disparition de l'Union soviétique. Deuxième puissance nucléaire, capacité de blocage au Conseil de sécurité de l'ONU et potentiel de nuisance que le Kremlin n'a pas manqué de rappeler après avoir été trompé par les Occidentaux en Libye dans le dossier syrien. Également usage de la force militaire quand Moscou se sent défié dans son étranger proche en Ukraine, en Biélorussie ou dans le Caucase. S'est-on trompé avec Moscou ? Que veut la Russie pour elle-même ? Désir de retour vers le passé ou tentative de se garantir une place au soleil pour compter dans le concert des grandes puissances du 21e siècle ? Regard avec nos invités par téléphone. Anne de Tinguy, professeure des universités émérite à l'INALCO et chercheure aux séries Sciences Po, auteure de La Russie dans le monde aux éditions du CNRS et directrice de la publication annuelle sur Internet Regard sur l'Eurasie. Bonjour Anne de Tinguy.
Bonjour.
En studio, Tatiana Kastoué-Vajan, directrice du Centre Russie NEI de l'IFRI, auteur de La Russie de Poutine en 100 questions, paru aux éditions Talendier. Bonjour.
Bonjour.
Et David Tortry, chercheur associé au Centre de recherche Europe-Eurasie de l'Institut national des langues et des civilisations orientales, l'INALCO, actuellement en poste dans le Sud-Caucase et auteur de Russie, le retour de la puissance aux éditions Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Au bord de l'effondrement dans les années 1990, la Russie est redevenue une puissance avec laquelle il faut compter. Elle est d'ailleurs reconnue comme telle par les États-Unis eux-mêmes. La rencontre de Vladimir Poutine avec Joe Biden le 16 juin dernier à Genève a été suivie d'un sommet virtuel mardi 7 décembre entre les deux présidents. Un sommet largement dominé par le dossier ukrainien et les menaces de nouvelles sanctions américaines contre Moscou. Les deux présidents ont des positions radicalement opposées. Joe Biden veut des garanties de la part de la Russie qu'elle ne lancera pas d'opération contre Kiev. Poutine exige de son côté des garanties que l'OTAN ne s'élargira jamais à l'Ukraine. Première crise internationale majeure pour le président américain depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Anne de Tinguy, pourquoi la crise intervient-elle maintenant et quelles sont les options des uns et des autres ?
Alors, je voudrais d'abord rappeler le contexte dans lequel on est. Dans votre introduction, vous avez mentionné que nous étions en décembre 21, c'est-à-dire que ça marque le 30e anniversaire de la fin de l'Union soviétique. 30 ans de bouleversements internes, internationaux et de recomposition. Et ça, je crois que c'est très important de tenir compte du contexte pour comprendre la question ukrainienne. L'ex-URSS n'est plus aujourd'hui une entité. Nous avons en face de nous un espace fragmenté. Espace qui n'est plus non plus coupé du monde, c'est très important de le rappeler. Dans cet espace, la Russie n'est plus en position de monopole et ses positions ont depuis des années fortement reculé dans différents domaines. Dans cette zone qu'elle continue à définir comme celle de ses intérêts fondamentaux, elle demeure un acteur majeur. Elle dispose de multiples outils d'influence. Mais ce qui est très important de voir, c'est qu'elle n'est plus maître du jeu. Et si elle n'est plus maître du jeu, c'est notamment parce que ses partenaires au sein de cet espace, hein, des trajectoires très différentes les unes des autres. L'Ukraine fait partie des États de la zone qui a plus de distance par rapport à la Russie, mais elle n'est pas la seule. Et je dirais que même les pays alliés de la Russie dans cette zone ne sont pas de simples sujets, de simples suiveurs de la Russie. Et donc, ça, c'est très important pour comprendre à la fois les difficultés des transitions économiques et politiques, peut-être aurons-nous le temps d'en reparler, mais pour comprendre aussi que pour la Russie, l'Ukraine est un dossier particulier, spécifique, et si la Russie perd l'Ukraine ou perçoit l'évolution de l'Ukraine comme une perte, ce sera pour elle, en termes de puissance, un échec absolument majeur.
Alors, je vais reprendre la main, si vous voulez bien, Anne de Tinguy, pour voir avec Tatiana Castouet-Vajan et David Tortry en studio. Effectivement, position très spéciale de l'Ukraine pour la Russie, avec un territoire qui a une importance stratégique majeure. Tatiana Castouet-Vajan, qu'est-ce que vous pouvez nous dire précisément de la place de l'Ukraine ? Et j'en reviens à ce que je disais précédemment, c'est cet entretien téléphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Qu'est-ce que l'on sait de ce que les deux présidents se sont dit, chacun a probablement pu clarifier sa position, et quelle est précisément cette position de l'un comme de l'autre, Tatiana Castouet-Vajan?
D'une part, en effet, je rejoins entièrement notre Tanguy sur le fait que l'Ukraine a une signification très spéciale dans la mentalité russe. Il suffit de voir les articles publiés dernièrement en été par Vladimir Poutine, qui sont d'ailleurs assez contradictoires, ces derniers articles, parce qu'à la fois il explique que c'est le même peuple qui est le peuple divisé, et en même temps souligne les aspects très hostiles aujourd'hui dans les relations entre l'Ukraine et la Russie, et il remet certainement la faute sur l'Occident qui instigue cette hostilité à l'égard de la Russie chez les Ukrainiens. Alors, tout le souci tourne autour du fait que la Russie, en effet, ne se sent pas en sécurité tant qu'il y a l'élargissement de l'OTAN vers les pays, anciens pays de l'URSS. Et aujourd'hui, le discours change quelque peu. C'est même plus tellement l'adhésion officielle que la Russie craint de l'Ukraine ou de la Géorgie, par exemple, mais que l'OTAN vienne, indépendamment du fait de cette adhésion officielle ou pas, vienne installer ses équipements, ses troupes sur le territoire ukrainien pour en faire une sorte, pour reprendre l'expression qui circule aujourd'hui, une sorte de porte-avions qui est sur le territoire ukrainien et qui menace ses intérêts. Pour la Russie, c'est donc stratégique. Elle avait toujours l'habitude d'avoir une sorte de zone tampon entre son propre territoire et l'Occident. Et c'est aussi une valeur symbolique. Il y a une sorte de mythe, de croyance que l'Occident a trompé la Russie en promettant de ne pas élargir l'OTAN. Mais c'était une promesse orale qui n'a pas été tenue. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine met la barre extrêmement haut parce qu'il réclame les engagements écrits, durables, de l'Occident de ne plus élargir l'OTAN. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'il souhaiterait laisser un héritage au-delà de ses présidences. Il va laisser un héritage la Crimée, qui est redevenue russe, mais cet engagement durable, quel que soit le prochain président, même s'il n'est pas aussi fort et aussi prêt à jouer des muscles militaires comme fait Vladimir Poutine, que cette menace soit enlevée et ne soit plus présente pour le territoire ukrainien. Telle est la posture russe aujourd'hui. Donc, je vous dirais que c'est à partir de ce sujet régional, il souhaite aller à un niveau beaucoup plus global et obtenir donc des garanties juridiques et durables. Évidemment, côté l'OTAN, je lisais ce matin que Biden se montre ouvert à un dialogue de ce type-là avec la Russie et j'anticipe tout de suite le tollé que ça peut susciter à la fois en Ukraine ou en Géorgie, mais aussi dans certains pays membres de l'OTAN, pour qui c'est aussi un sujet d'intérêt vital, de sécurité vitale, d'être de l'OTAN et de garder le droit pour les pays qui ne sont pas membres de l'OTAN d'y adhérer. La charte de Paris, qui a été signée en 1991, dit que tout pays a le droit de choisir son système de sécurité et ses alliances sécuritaires. C'est justement cela que la Russie souhaite changer aujourd'hui. On est vraiment dans une vision très très contradictoire de ces approches sécuritaires entre les deux parties. Donc je ne crois pas que ça puisse être réglé d'une manière très simple, dans un avenir prévisible, mais le simple fait, s'il y a le dialogue qui est ouvert sur ces sujets, avec ce que Biden semble montrer, c'est déjà quelque chose d'énorme pour Vladimir Poutine, je pense.
Alors, j'aimerais comprendre, par ailleurs, le contexte un peu général, mais précis tout de même. Joe Biden arrivait à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Est-ce que la position américaine s'est précisée sur l'Ukraine, David Tortry? Et est-ce qu'on voit l'OTAN, là aussi, plus clair sur les possibilités d'ouverture qui auraient donc généré cette montée de tension avec Vladimir Poutine, avec par ailleurs, un Joe Biden qui réaffirme que c'est à chacun des pays de décider de son propre sort et des décisions qu'il entend prendre. David Tortry.
Oui, alors ce qui est intéressant avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, c'est que d'une part, on avait l'impression que le Kremlin souhaitait la réélection de Donald Trump, considéré comme plus proche des intérêts russes. Donald Trump avait été élu et d'une certaine façon mal élu parce qu'il était accusé d'avoir reçu l'aide de la Russie pour son élection. Et en réalité, ça avait pollué toute sa présidence du point de vue du dialogue avec la Russie. Il ne pouvait pas dialoguer avec la Russie. Et en réalité, si le calcul du Kremlin avait été d'obtenir un président pro-russe qui lui permette d'avancer ses pions, notamment sur la scène internationale, ça n'a pas forcément été une réussite puisque le Congrès américain a voté un grand nombre de sanctions pendant cette période. Donc c'était plutôt un échec. Avec l'arrivée de Joe Biden, on a un président qui ne peut pas être accusé d'être pro-russe. Au contraire, il a des positions dans tout son parcours et au cours de l'élection présidentielle plutôt dures vis-à-vis de la Russie. Et en même temps, ça va peut-être être justement cette situation qui lui permet à l'heure actuelle de dialoguer avec Vladimir Poutine. Ce qui est intéressant, c'est que pour leur premier sommet, il y a eu quand même des résultats relativement concrets. Ils ont créé des groupes de travail sur les questions stratégiques, sur les questions de cybersécurité. Ces résultats concrets, on n'en avait pas eu pendant toute la présidence de Donald Trump.
Il y a des canaux.
Voilà, il y a des canaux et il y a une discussion sur les questions stratégiques, ce qui est très important pour les deux parties, mais notamment pour la Russie, qui veut maintenir la parité stratégique avec les États-Unis, mais qui n'en a pas forcément autant les moyens que son adversaire et qui souhaiterait peut-être faire baisser la pression de ce côté pour justement investir plus de moyens sur les forces conventionnelles, comme on le voit d'ailleurs dans le cadre de l'Ukraine, parce que là, on a une forte mobilisation des forces conventionnelles russes qui permettent de faire pression à la fois sur l'Ukraine et sur l'Occident et de forcer le dialogue sur ce dossier majeur pour la Russie. Comme on l'a dit, il y a des éléments presque sentimentaux, des éléments qui renvoient des représentations très ancrées chez les Russes d'une Ukraine, de Kiev, la ville capitale de l'État de la Russie médiévale. Et il y a en même temps des intérêts bien compris en termes à la fois sécuritaires mais aussi économiques. En réalité, le projet de Vladimir Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, c'était de recréer une sorte d'union slave. Il avait proposé à l'Ukraine et à la Biélorussie notamment, de recréer un ensemble, plus de 200 millions d'habitants. C'est ce qui a donné l'Union eurasiatique par la suite, mais en une version réduite et qui est moins intéressante pour la Russie parce que une bonne partie du potentiel industriel hérité de l'URSS s'est retrouvée en Ukraine. Un seul exemple, les porte-avions qui étaient produits par l'Union soviétique, ils étaient tous produits en Ukraine. Et à l'heure actuelle, la Russie n'a plus les moyens, pour l'instant, de produire des porte-avions. Et c'est un seul exemple, en fait. Il y avait un énorme potentiel ukrainien. Et la rupture actuelle, elle est à la fois symbolique, mais elle est aussi très concrète. Il y a un certain nombre d'armements que la Russie a beaucoup de mal à produire à l'heure actuelle, parce que la rupture s'est faite avec l'Ukraine.
Alors, pour boucler ce dossier ukrainien pour cette émission de la Russie 30 ans après l'effondrement de l'URSS, Anne de Tinguy, est-ce que l'entretien de cette semaine entre Joe Biden et Vladimir Poutine m'a permis de faire baisser la tension? On l'a dit, Moscou mobilisait des forces à la frontière ukrainienne. On a craint un moment que tout cela n'explose en guerre, enfin voilà, qu'il y ait une intervention militaire russe en Ukraine. Est-ce que la tension s'est baissée par cet entretien entre Biden et Vladimir Poutine, Anne de Tinguy?
Je crois qu'il faut s'interroger en fait sur les objectifs qui sont poursuivis par la Russie. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Tatiana Kastoyeva-Jean, mais je pense qu'il faut rappeler qu'au-delà de la question de l'OTAN, la Russie considère que, en fait, pour dire les choses très clairement, l'Ukraine a une souveraineté qui est limitée. C'est-à-dire que la Russie veut garder le contrôle des orientations extérieures de l'Ukraine. Plus qu'intérieures d'ailleurs, l'essentiel pour elle, ce sont clairement des orientations extérieures. Alors, pourquoi est-ce que subitement, depuis quelques mois, il y a à nouveau des tensions et des pressions, y compris militaires, très fortes de la Russie sur l'Ukraine et de ce fait sur l'Europe et les États-Unis? Je crois que là, il faut ajouter à tout ce qui a été dit et que je partage par Tatiana Jean et par David Tertri, il faut aussi ajouter que les Russes ont bien examiné quelle était la politique de Joe Biden et se demander si son positionnement actuel en Ukraine n'est pas aussi une conséquence de la priorité qui a été accordée explicitement par Joe Biden à la question chinoise et donc moins à la question russe, et d'autre part une conséquence du retrait américain d'Afghanistan. Les Américains se sont retirés d'Afghanistan parce que ce pays n'était pas stratégiquement prioritaire pour eux et qu'ils pensaient avoir fini le job. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas la même chose en Ukraine? En tout cas, c'est ainsi que les voient le russe. Alors, jusqu'où est-ce que Moscou serait prêt à aller? Est-ce que l'objectif de Moscou serait vraiment une intervention militaire? Et est-ce que la rencontre avec Joe Biden a réussi à l'en dissuader? Ça, c'est bien difficile à dire. Et il y a encore un point sur lequel je voudrais insister. En fait, clairement, si on examine la situation, la Russie n'aurait aucun intérêt à une intervention militaire supplémentaire. Elle a déjà la Crimée, le Donbass, qui est un conflit qui pose, y compris à la Russie, de nombreux problèmes, qui n'est pas du tout réglé comme le voudrait la Russie. Et donc, la Russie n'aurait probablement pas intérêt à une nouvelle intervention militaire. Mais le problème avec l'Ukraine, c'est que dès qu'il s'agit de ce pays, il n'y a plus de rationalité dans le discours et dans l'argumentation de la Russie. Et donc, c'est un point qu'il faut prendre en considération parce que ça rend l'analyse stratégique beaucoup plus difficile.
Alors, Tatiana Kastoyeva-Jean, très rapidement pour terminer cette première partie d'émission. Moscou-Kiev, une séparation inachevée et qui ne le sera sans doute jamais?
D'une manière générale, on peut le dire pour l'espace post-soviétique, c'est un espace, comme a dit Anne de Tanguy, qui est extrêmement fragmenté. Et en même temps, la sortie de post-soviétisme 30 ans plus tard n'est pas complètement terminée parce qu'il y a encore beaucoup de conflits gelés. Il y a des territoires qui ne sont pas départagés. Il y a des liens qui continuent à exister. En même temps, il y a d'autres acteurs qui arrivent et qui influencent le jeu des pays anciennement qui faisaient auparavant partie de l'URSS. Je pense notamment à la Turquie qui s'est invitée depuis l'année dernière dans le conflit du Haut-Karabakh. Et donc Moscou, Kiev, je pense que c'est un conflit qui a vocation à durer. En effet, je rejoins entièrement Anne de Tanguy sur le fait que la Russie n'a aucun intérêt à l'invasion. De fait, elle a déjà toutes les billes qu'il faut dans le Donbass et les accords de Minsk étant dans l'impasse et tout le monde y tenant à la fois, mais en restant braqué sur ses positions. Donc nous sommes dans un conflit qui risque encore de durer.
On vous retrouve Tatiana Kastoyeva-Jean ainsi que Anne de Tanguy et David Tertri après le journal. À tout de suite.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Ce samedi 11 décembre,
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur l'espace post-soviétique, 30 ans après la chute de l'URSS. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Anne de Tinguy, professeur des universités émérite à l'INALCO et chercheur au CERI Sciences Po, auteur de La Russie dans le monde aux éditions du CNRS et directrice de la publication annuelle sur Internet Regard sur l'Eurasie. En studio, Tatiana Kastoué-Vajan, directrice du Centre Russie et Nuit de l'IFRI, auteur de La Russie de Poutine en 100 questions, paru aux éditions Talendier. Et David Tertry, chercheur associé au Centre de recherche Europe-Eurasie de l'Institut national des langues et des civilisations orientales, l'INALCO, actuellement en poste dans le Sud-Caucase et auteur de Russie, le retour de la puissance chez Armand Collin. On a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission de la question ukrainienne, après en particulier le coup de téléphone que se sont passés mardi dernier Vladimir Poutine et Joe Biden sur la question. Ukraine, une souveraineté limitée, comme le disait Anne de Tinguy dans la première partie de l'émission. Tatiana Kastoué-Vajan, vous l'avez évoqué, les accords de Minsk sont bloqués. Qu'est-ce que l'on peut dire de la situation aujourd'hui au Donbass? Où est-ce qu'on en est?
Ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est que c'est un conflit quand même au cœur de l'Europe qui a fait déjà quasiment 14 000 personnes de tués et a fait aussi, les chiffres sont différents un petit peu, mais en général on cite 1,5 million de personnes déplacées en partie vers le territoire ukrainien, en partie vers la Russie. Il y a aujourd'hui une ligne de contact, donc c'est une sorte de frontière entre les républiques séparatistes et le territoire ukrainien sous le contrôle des autorités qui y viennent, sur lequel vous avez des troupes qui sont positionnées. Je suis allée à la ligne de contact au début du mois de novembre à Cherokine. Les images sont très impressionnantes de voir au XXIe siècle, au cœur de l'Europe, une ville qui a existé, une ancienne station balnéaire où il y avait jusqu'à 60 000 personnes en été au bord de la mer d'Azov, qui est aujourd'hui est une ville complètement morte, où on ne peut pas vivre, où il n'y a que des bâtiments détruits, où il y a encore des tirs de temps en temps. Toutes les semaines, il y a des morts des soldats ukrainiens par les tirs de snipers. Donc ce n'est pas un conflit gelé pour l'instant, c'est encore une guerre qui continue. En même temps, la Russie est en train de faire depuis quelques années tout pour rattacher ce territoire, en vérité, à son propre territoire national. Il y a eu, je crois que c'est Anne de Tinguy qui a mentionné, il y a le processus en cours de passeportisation, c'est-à-dire la distribution des passeports russes. Il y a aujourd'hui 670 000 personnes qui ont reçu les passeports russes. En été, la Russie a donné l'accès aux entreprises de ces régions séparatistes à son marché national de services. Donc, de fait, ils sont intégrés. Tous les documents qui sont édités par les autorités de ces républiques séparatistes, comme les diplômes universitaires, par exemple, sont reconnus en Russie. Donc, de fait, il y a déjà une intégration. La grande question est qu'est-ce que veulent les habitants de ces régions-là ? On en sait peu de choses et à mon avis, la principale chose qu'ils souhaitent, c'est la paix, car ils ont connu quand même, surtout en 2014-2015, la situation absolument catastrophique. La question aussi qui se pose, comment l'Ukraine voit et qu'est-ce qu'elle fait exactement pour la réintégration de ces territoires. En pratique, le discours qu'on entend, c'est évidemment qu'on veut la réintégration de ces territoires sous occupation, pour reprendre le terme ukrainien. Mais de fait, avec ce que j'évoquais avant, avec cette intégration au territoire russe, les choses sont extrêmement difficiles. C'est pour ça que je dis que cette région risque de rester pendant très longtemps une sorte de région pion, marionnette russe pour faire pression sur les autorités ukrainiennes. C'est pour cela aussi que l'Ukraine est aussi réticente à remplir les accords de Minsk à la lettre, les accords de Minsk qui ont été signés dans les conditions très très difficiles pour l'Ukraine. Il y avait le combat de Debaltseve où il y avait des soldats ukrainiens qui mouraient. Donc le président Porochenko avait signé dans les conditions très difficiles ces accords-là. Mais aujourd'hui, l'Ukraine a la peur d'avoir ces républiques-là en son sein, qui pourraient en effet bloquer, comme disait aussi Anne de Tinguy, les choix stratégiques, l'adhésion à des alliances qui sont considérées comme hostiles par la Russie.
Alors, on est obligé d'avancer. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la question ukrainienne. Mais il y a un autre pays qui se place en haut de l'agenda Russie-Occident, c'est la Biélorussie. David Tertry, où en est-on avec la Biélorussie. On peut rappeler cette crise migratoire, la frontière avec la Pologne. Enjeux et défis de la crise biélorusse et qu'est-ce que cela veut dire aussi pour Vladimir Poutine ?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que les dossiers biélorusses et ukrainiens, finalement, sont en train d'être de plus en plus liés. Il faut rappeler que avant la crise politique qui a débuté à l'été 2020 avec la énième réélection d'Alexandre Loukachenko, qui s'est passée de manière bien différente des réélections précédentes, puisqu'il y a toujours eu des contestations sur ces réélections, mais celles-ci, en 2020, ont été massives. Elles ont entraîné des manifestations de très grande ampleur, inattendu, à peu près pour tout le monde d'ailleurs, que ce soit en Occident, en Biélorussie, en Russie. Et on a une rupture parce que, disons, entre 2015 et 2020, Alexandre Loukachenko avait entamé un rapprochement avec l'Occident qui avait pour objet justement l'Ukraine. Alexandre Loukachenko avait pris une position de neutralité sur le conflit ukrainien qui avait été appréciée par les Occidentaux puisque c'était une forme de désolidarisation vis-à-vis de Moscou. Et par ailleurs, cette position de neutralité lui avait permis d'accueillir les négociations sur le conflit du Donbass. Donc, d'où les accords de Minsk. Donc ça avait été apprécié par les Occidentaux. Ça avait permis la levée des sanctions, parce que n'oublions pas que c'est un régime qui a pratiquement été tout le temps sous sanctions. Donc, un processus de rapprochement. Et puis, avec cette réélection totalement contestée, contestable, eh bien, on a un processus inverse à l'heure actuelle. C'est de rapprochement avec la Russie. Alors, sachant que ça a toujours été un allié de la Russie par ailleurs. Mais disons que Alexandre Loukachenko avait introduit de plus en plus de nuances entre 2015 et 2020. Là, on a un rapprochement qui est un rapprochement à bien des égards forcé. C'est pas parce que Alexandre Loukachenko souhaite revenir dans les bras de Vladimir Poutine, d'autant qu'ils ne s'entendent pas très bien, ces deux présidents, mais parce qu'il est contraint et forcé par son isolement et par les sanctions qui s'appliquent à la Biélorussie. Alors, ce qui est assez curieux dans l'attitude de Loukachenko, c'est que les Occidentaux étaient assez réticents en réalité à appliquer les sanctions à la Biélorussie. On l'a vu, ils ont tergiversé dans un premier temps quand la crise a eu lieu. Le premier train de sanctions n'était pas si important que ça. Et ils n'arrêtent pas en quelque sorte de créer des crises. Donc on se rappelle du détournement de l'avion pour attraper un opposant. Et là, il a créé de toutes pièces cette crise migratoire. Et à chaque fois, au lieu de lui permettre de créer un rapport de force avec l'Occident et de pouvoir négocier, eh bien, il y a un nouveau train de sanctions et ces sanctions, désormais, elles sont vraiment des sanctions économiques qui risquent de faire mal véritablement à son régime. Et il est dans une fuite en avant. Il est dans une fuite en avant qui se traduit par deux choses. Il essaye de limiter les concessions en termes de souveraineté vis-à-vis de la Russie. Ça continue à être sa politique habituelle. Mais il est obligé d'en faire des concessions. Il n'est pas possible dans sa situation actuelle. Donc il y a deux éléments. D'une part, il y a l'activation de la coopération militaire. L'empreinte militaire russe en Biélorussie n'a jamais été aussi importante qu'à l'heure actuelle. Même s'il évite de créer, pour l'instant, il a résisté à la création d'une base militaire russe qui est une demande russe ancienne. Il temporise, mais en réalité, il y a des sortes de bases militaires russes qui sont en train de se créer sur le territoire biélorusse. Et la deuxième concession importante, c'est sur l'Ukraine. Il a un discours de plus en plus dur vis-à-vis de l'Ukraine, qui se traduit aussi par des mobilisations de troupes aux frontières, et qui se traduit aussi, alors là, ça reste rhétorique, on demande à voir, mais aussi sur la Crimée. Il y a une évolution du discours sur la Crimée. Depuis des années, il dit, écoutez, de facto, la Crimée appartient à la Russie. De facto. Vu du Kremlin, c'est pas suffisant. Ça, tout le monde le dit. Le Kremlin voudrait une véritable reconnaissance des jurés. Alors là, il a évolué dans son discours en disant, oui, en fait, la Crimée est russe, sauf qu'il n'y a pas d'éléments très concrets. Par exemple, il y a un journaliste russe qui lui a dit, mais alors pourquoi il n'y a toujours pas de liaison aérienne directe entre Minsk et la Crimée? Et là, il a botté en touche. Et donc, on sent que Loukachenko tente toujours, malgré ce créneau très pro-russe actuel, de garder une marge de manœuvre et éventuellement, il attend toujours, en fait, je pense, une forme de dialogue avec l'Occident qui risque de bien avoir du mal à obtenir vu sa situation actuelle.
Alors, Anne de Tinguy, je vais vous passer la parole. Je ne sais pas si vous allez vouloir réagir sur la Biélorussie. Il y a plusieurs dossiers que j'aurais aimé qu'on évoque et je les nomme parce que c'est important d'élargir un petit peu le paysage. Il y a aussi la question de la Moldavie, où est-ce qu'on en est? Les républiques d'Asie centrale, où on voit la Chine et la Russie se livrer une concurrence pluridimensionnelle dans cette région. Et puis aussi le Caucase du Sud. On peut rappeler la dernière guerre du Haut-Karabakh de l'automne 2020, remportée par l'Azerbaïdjan, qui a redistribué les cartes stratégiques dans la région et démontré que le Caucase du Sud restait un espace vital, vulnérable et fragile, avec cette volonté de la Russie finalement de désoccidentaliser d'une certaine manière le Caucase. Anne de Tinguy.
Alors, tout ce qui se passe avec la Biélorussie depuis quelques mois et même quelques années est très révélateur de la complexité des relations entre les pays de l'espace ex-soviétique, notamment entre la Russie et ses voisins. La Biélorussie est membre des deux alliances qui ont été créées dans l'espace post-soviétique, d'une part l'Union économique eurasienne dans le domaine économique et d'autre part l'Organisation du traité de sécurité collective dans le domaine stratégique. Pour autant, la Biélorussie n'a jamais été un allié facile pour M. Poutine. David Tertry a rappelé qu'ils avaient eu des relations qui n'étaient pas excellentes. Et jusqu'à maintenant, où la marge de manœuvre aujourd'hui est très limitée, mais jusqu'à maintenant, le président Loukachenko, président entre guillemets, s'est opposé à plusieurs reprises à Moscou. Le régime qui a été mis en place en Biélorussie par le président Loukachenko est, on vient de le redire, un régime autoritaire. Et là, nous avons une caractéristique de très nombreux États de l'espace post-soviétique. Si on regarde les publications de l'ONG Freedom House qui classe tous les pays du monde, mais les pays de la zone en fonction de leur accès aux libertés individuelles, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aucun des pays de la zone n'est libre. La Biélorussie, comme les pays d'Asie centrale, sauf le Kyrgyzstan et bien d'autres, et bien sûr la Russie, font partie des pays non libres. Et en fait, les pays partiellement libres, il n'y en a que quatre, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et l'Arménie. En fait, une des caractéristiques des transitions politiques qui sont clairement très difficiles, c'est que d'une part, on a ces régimes autoritaires. D'autre part, on a des difficultés même dans les pays associés à l'Union européenne, les trois pays associés à l'Union européenne, l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Les transitions politiques sont très difficiles. Mais alors, ce que je voudrais souligner, c'est que malgré cette situation, on a des sociétés civiles qui, dans beaucoup de ces pays, notamment en Biélorussie, mais pas seulement, sont des sociétés civiles qui sont tout à fait actives. On voit dans de nombreux pays des mobilisations citoyennes qui sont très importantes. Je rappelle qu'il y a eu des révolutions dites de couleur dans plusieurs des pays de la zone. Et même dans un pays comme la Russie et la Biélorussie, il y a des mobilisations citoyennes qui montrent qu'il y a là une donnée de fond des évolutions dans l'espace post-soviétique. Dernier point concernant les évolutions de la Biélorussie, ce sont les perspectives. En fait, si le président Loukachenko est amené à céder la place, si la Biélorussie devient un pays démocratique, il est clair qu'il y aura là une donnée fondamentale dans l'espace post-soviétique, parce qu'une Biélorussie démocratique sera davantage en phase avec l'Union européenne et qu'avec la Russie, ce qui signifiera un nouveau revers pour la Russie dans cet espace où elle en a déjà subi beaucoup.
Tatiana Kastrovajan, la Biélorussie démocratique, ça veut dire un départ de M. Loukachenko qui n'en a pour l'instant absolument pas l'intention.
D'après ce qu'on voit, il n'en a pas l'intention. En même temps, il a quand même été obligé, à la suite des événements d'août 2020, d'annoncer le processus de réforme constitutionnelle. Et c'est en fait au mois de février qu'on attend les annonces, qu'est-ce que c'est exactement, comme nouveau projet de constitution, etc. Et la grande question, comment lui, il se voit dans la suite, quelle est la place dans le système politique biélorusse qui se réserve. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il ne passera pas par les prochaines élections. Déjà, avec ce qu'on a vu dernièrement, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse se représenter pour d'autres élections présidentielles, etc. Donc, qui le remplacera? Quelle sera la personne qui pourrait trouver à la fois un canal de dialogue avec la Russie et l'Occident. Avant les élections d'août 2020, on a parlé de Viktor Babariko, par exemple, qui est à la fois proche des Russes et qui pourrait être acceptable pour les Occidentaux. Et je pense que Loukachenko y a vu un vrai rival. Donc, c'est celui qui est en prison et pour longtemps, qui a eu une peine extrêmement lourde. Donc, la situation en Biélorussie est loin d'être bouclée, loin d'être réglée. On aura les rebondissements au printemps.
Alors, pour terminer, et en guise de conclusion, on a bien parlé depuis le début de cette émission, et j'en ai suffisamment développé cet aspect dans l'introduction, les ingérences de l'Occident dans l'espace post-soviétique. Il y a quand même deux pays qui ont été mentionnés rapidement, on n'a pas eu le temps là. C'est tout de même la Chine et la Turquie qui ne manquent pas aujourd'hui d'interférer dans les affaires directes ou indirectes de la Russie dans cet environnement. Très rapidement, alors je ne sais pas, David
Tortry. Oui, alors juste pour faire la transition, je voudrais souligner que la volonté de Vladimir Poutine aussi d'obtenir des garanties d'une manière ou d'une autre de non-élargissement des structures occidentales à l'Ukraine, elle a un écho justement aussi avec la Biélorussie, parce que s'il obtenait ces garanties d'une manière ou d'une autre, il se sentirait plus tranquille, si je puis dire, pour une transition en Biélorussie. À l'heure actuelle, le problème aussi pour la Russie, c'est que le Kremlin se sent contraint en quelque sorte de soutenir un régime et un président qui, avec lequel il n'a pas forcément beaucoup d'affinité, par crainte de perdre totalement cet État très important et stratégique. Alors, sur la relation avec la Chine, ce qui est intéressant, c'est que pendant de nombreuses années, on a eu beaucoup d'analyses en Occident disant cette relation, c'est une relation un petit peu contrainte, elle est très déséquilibrée, ce qu'elle est en partie, et a priori, les intérêts sont tellement divergents que ce n'est pas très durable. Ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt durable, en tout cas ça dure, et que contrairement à ce qui a souvent été dit, eh bien, le rapprochement il est de plus en plus fort. Hein, et on peut à certains égards parler de quasi-alliance. Alors, ce que je trouve intéressant à l'heure actuelle, c'est que la position russe, elle est extrêmement faible vis-à-vis de la Chine ces dernières années, pour les raisons qu'on connaît, démographiques, économiques, conflits avec l'Occident, etc. Ce qu'on peut constater depuis que Biden est arrivé au pouvoir, notamment, c'est qu'on peut voir une sorte de léger équilibrage en faveur de la Russie. Pourquoi ? Parce que désormais, la priorité en termes de confrontation, si je puis dire, c'est ce qu'on constate pour les États-Unis, c'est la Chine. Et donc, la Chine a un peu plus besoin de la Russie qu'auparavant, si je puis dire. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Et justement, toute l'idée du Kremlin, par ailleurs, c'est de dire, dans le triangle Russie-Chine-États-Unis, après tout, de dire à Washington, votre adversaire principal, c'est la Chine. Donc, essayons de trouver un terrain d'entente sur les dossiers qui nous intéressent. Et c'est toute l'idée. Donc, il y a à la fois la pression qu'on a vue militaire, etc., et en même temps, la volonté de dialogue pour dire « laissez-nous tranquilles » entre guillemets et « occupez-vous de la Chine ». Donc, il y a un jeu assez subtil aussi qui se met en place entre les trois puissances. Et ce qui est certain, c'est que le facteur chinois, quand la Russie et les États-Unis dialoguent, il est toujours là en arrière-plan.
Ça pourra faire l'objet d'une émission. Merci, David Tortry. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre de recherche Europe-Asie de l'Institut national des langues et des civilisations orientales, l'INALCO, et que vous êtes actuellement en poste dans le Sud-Caucase. Et auteur de « La Russie, le retour de la puissance » chez Armand Collin. Merci aussi à Anne de Tinguy qui était avec nous par téléphone, professeur des universités émérite à l'INALCO et chercheur aux séries Sciences Po, auteur de La Russie dans le monde aux éditions du CNRS et directrice de la publication annuelle sur Internet Regard sur l'Eurasie. Merci aussi à Tatiana Castouévagian, directrice du Centre Russie NEI de l'IFRI et auteur de La Russie de Poutine en 100 questions aux éditions Talendier. Je rappelle par ailleurs la parution de l'édition 2022 du rapport Ramsès, publication de l'IFRI, qui consacre une large place à l'espace post-soviétique 30 ans après la chute de l'URSS. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo, Victor Hull et Nicolas Benita. À demain.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.